pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'information nous est donnée par le Huffington Post. Walmart, l'équivalent américain de notre Carrefour français, envisage de fabriquer des abeilles robots capables de polliniser les cultures et de remplacer les abeilles bien réelles qui sont en voie de disparition. Le projet est d'ailleurs étudié depuis 2009 par des scientifiques de Harvard qui ont déjà mis au point plusieurs prototypes de drones de plus en plus petits et de plus en plus performants. Grâce à des capteurs, des algorithmes millimétrés et les dernières avancées de l'intelligence artificielle, ces robots devraient pouvoir voler, décoller de l'eau et rester bien sûr insensibles aux insecticides qui sont la cause première de la mort des abeilles. On se dit qu'il faudra attendre encore des années avant de voir voler ces mini-drones et de les rendre complètement efficaces. On se dit aussi qu'en comparaison, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée en France a un train de retard, voire plusieurs, sur ces technologies de pointe. Ce qu'on sait peu, pourtant, c'est que la révolution numérique touche déjà de plus en plus d'exploitations françaises pour gérer, surveiller et mieux analyser la production et les rendements. C'est ce qu'on appelle désormais l'ag-tech ou l'agriculture 4.0. D'ores et déjà, les agriculteurs qui le souhaitent peuvent installer des caméras pour surveiller leurs troupeaux, installer des GPS embarqués dans leurs tracteurs, numériser les données de leurs exploitations et suivre des bulletins météo calibrés et adaptés au sol grâce à des capteurs. Des expérimentations sur les voitures autonomes devraient à terme permettre de fabriquer des machines encore plus intelligentes. On imagine des tracteurs sans conducteur, des drones à l'image des robots abeilles pour faire le travail dans les champs et des applis pour tout gérer à distance. L'histoire ne dit pas au passage comment leurs données seront protégées ni avec qui elles seront partagées. Dans ce nouvel épisode du journal breton, Inès Leroux s'intéresse donc à l'industrialisation, comprenez aujourd'hui la digitalisation des exploitations agricoles. En Bretagne, où l'élevage intensif reste le modèle dominant, le passage au numérique serait même devenu une nécessité selon les représentants du système agricole. Les agriculteurs deviennent des consommateurs toujours plus accros aux technologies de pointe qui récoltent leurs données et dressent des modèles prédictif. Aujourd'hui, donc, c'est jusqu'à 14h dans les pieds sur terre. Ce sont deux histoires d'agriculteurs sous la pression de l'informatique. C'est un reportage d'Inès Leroux avec Antoine Costa, réalisé par Clémence Grosse.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors du coup, tu veux quoi? Tu veux voir un poulailler? Tu veux...
Ouais.
Ouais, alors attends, on peut aller là-bas.
Laetitia Montulet vit à une vingtaine de kilomètres de chez moi, en centre-Bretagne, à Mélionnec.
Donc là, pour entrer dans la tuerie, il faut rincer ses chaussures.
Ouais.
Elle a 46 ans et elle s'est lancée dans l'agriculture biologique après des études de sociologie. Elle a un petit abattoir à la ferme, elle vend en direct. Elle semble donc indépendante des intermédiaires industriels, comme les abattoirs et la grande distribution. Mais les nombreuses normes édictées par l'administration menacent sans cesse sa petite autonomie.
Nous, on fonctionne à deux, donc en couple sur la ferme. On fait un abattage hebdomadaire.
La dernière norme en vigueur, c'est l'obligation d'acheter un outil informatique qui permettrait à l'administration de contrôler la manière dont elle tue ses poulets.
Il y a des règles donc, au niveau de l'électronarcose. C'est une petite machine. Et donc, on règle après l'intensité électrique pour endormir chaque animal avant de le saigner. Voilà. Donc, en fait, on considère qu'il n'est plus dans ses sensations physiques, qu'il est plus qu'endormi, qu'il ne se rend pas compte de la mort, quoi. Alors, avant, en fait, on avait un appareil qui était beaucoup plus simple, mais les normes ont changé. Maintenant, en théorie, il faudrait pouvoir enregistrer au début de l'étourdissement, jusqu'à la fin de l'étourdissement, la puissance qui est envoyée en fait sur l'animal pour qu'il s'endorme. Donc ça, cet appareil-là n'a pas ça. C'est un appareil qui coûte 2 500 €. Donc sur une structure comme la nôtre, pour rentabiliser ça, faut tuer un certain nombre de poulets. Donc nous, on a fait le choix de ne pas l'acheter. Ça va enregistrer sur une petite clé USB. Et la clé USB, le jour où on a un contrôle, ils vont pouvoir mettre ça dans l'ordinateur et contrôler, en fait, avec cette petite clé USB, que chaque volaille a bien été étourdie selon les bonnes intensités.
Avant d'être tué.
Donc, mais cette petite machine, ce petit bijou, coûte cher. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas l'acheter.
Mais alors, ça veut dire que là, vous êtes hors la loi de ne pas avoir cette machine ?
Alors, le prochain contrôle, c'est possible qu'on ait ça sur notre notification de contrôle, qu'on ait mis en demeure de respecter les cahiers des charges et donc de corriger, quoi. C'est surtout un matériel qui est surdimensionné par rapport à nos besoins, quoi. Voilà.
En fait, vous n'en avez pas du tout besoin de ce matériel ?
Bah non. Ça devient de l'ordinateur, quoi. Ça devient de l'informatique. On n'est pas contre l'étourdissement. Ça, c'est vraiment un bien-être animal, un confort pour aussi l'humain qui, à un moment donné, doit passer le couteau pour saigner l'animal. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas le plus fun quand on est éleveur. Mais cet enregistrement sur des petits volumes comme nous, ça n'a pas de sens. Et ça coûte cher. Mais on arrive à l'extrême du coup parce qu'il y a eu quelques abattoirs qui ont très mal travaillé, pas forcément sur de la volaille, mais sur des grosses bêtes aussi. Du coup, on a un peu parfois le sentiment que tout le monde paye pour ça, quoi. Enfin, nous, l'abattage, il dure, on va dire, 3 heures, quoi. 3 heures, 4 heures. Donc la machine, puis on a l'œil dessus à chaque fois. Et puis tout est manuel. On prend la volaille dans la caisse, on a la bête entre les mains, donc... C'est pas comme une machine qui va prendre le poulet ou quelqu'un qui va accrocher un poulet à un crochet et puis hop, la bête, elle passe dans un bain, puis hop, elle est électrocutée à chaque fois par une machine. Nous, tout est manuel, quoi. Donc, en fait, le contrôle, il suffit d'avoir juste l'œil sur le voltage pour voir que le voltage est bon et que la bête, entre nos mains, elle est étourdie. C'est ça, le truc.
Laetitia n'est pas la seule à résister à cet achat. Régine Saladin, une autre éleveuse de volailles bio plein air du centre Bretagne, possédant elle aussi son petit abattoir, m'écrit par mail. Je ne suis pas décidée à suivre ces plans élaborés pour et par les représentants de la filière industrielle. Toutes ces normes qu'ils introduisent nous ramènent de plus en plus à l'état d'exécutant de l'administration. Mais ce que risquent ces éleveurs qui résistent, c'est la suppression de leurs aides PAC, les fameuses subventions de la communauté européenne. Elle représente en général 100% du revenu des agriculteurs et 30 à 40% du revenu de petits éleveurs comme Régine et Laetitia. Non loin de chez moi, une éleveuse de brebis bio qui refusait le puçage électronique obligatoire de son troupeau s'est vue retirer ses aides après un contrôle de l'administration. Les conséquences furent rapides. Elle dut fermer boutique. Ce refus du puçage électronique a pris une autre ampleur dans le Tarn. Un ami documentariste, Antoine Costa, suit cette lutte depuis quelques années. Il a enregistré pour cet épisode du journal breton, à l'autre bout de la France, deux membres du collectif Faut pas pucer.
Moi je suis Pierre Mestre et j'élève des chèvres à Le Tarn, une petite commune pas très loin de Toulouse. Alors moi je me suis installé en 2010, après avoir travaillé et vécu à Toulouse quelques années, je faisais de l'informatique. Puis je travaillais toute la journée sur un ordinateur. Et le contenu et l'usage même des logiciels que je faisais me semblait étouffant. Du coup, ayant grandi sur une ferme, j'ai décidé de revenir voir comment ça se passait et de m'y intéresser, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Et donc, en 2010, j'ai commencé à travailler sur la ferme. Hein. On élève des chèvres, on transforme en fromage. Et on vend tout ça donc sur des marchés, en direct.
Sur la ferme de ses parents, Pierre redécouvre finalement avec intérêt le métier de paysan, dont l'activité économique, en l'occurrence le fromage de chèvre, s'entremêle avec d'autres occupations comme faire du bois, cultiver un potager. Avant, sa vie lui semblait tronçonnée en plusieurs parties. Les différentes activités de la ferme lui permettent de retrouver, lui semble-t-il, une cohérence. Il décide de reprendre l'exploitation, d'abord avec sa tante, puis celle-ci partie en retraite, avec Adeline, une jeune femme, elle aussi en reconversion.
Là, je décide de m'installer à proprement parler, administrativement, etc. Et du coup, en commençant à prendre tout à mon nom, etc., je me rends compte un petit peu, de plus en plus, de toute la part administrative et la quantité de documents qu'il faut fournir et qui en fait me coûte de plus en plus. Ça devient significatif dans le temps passé hebdomadairement par rapport à ce que nous on trouve d'essentiel qui est de s'occuper des bêtes, de savoir les avoir en bonne santé, les nourrir, etc. C'est-à-dire qu'on soit une petite structure comme la nôtre, ou les fermes-usines, ou les grosses fermes céréalières, ou les gros élevages, la quantité, les renseignements administratifs à fournir sont du même ordre, puisque l'administration toutes les informations, de manière à pouvoir connaître et gérer les fermes depuis leur bureau et depuis leurs ordinateurs, quoi, enfin, à distance, de manière numérisée. Petit à petit, il y a ça qui prend du poids, et sur ce, ou enfin, c'était déjà arrivé, mais moi je commence à m'en préoccuper, puis, donc on est 2012-2013 par là, il y a cette obligation sur les brebis et les chèvres de mettre des puces électroniques désormais à l'oreille des chèvres. Pour moi, ça devient la goutte d'eau, quoi. Enfin, c'est vraiment un symbole de je vais numériser mes chèvres, quoi. L'orientation agricole des administrations comme ça me pousse dans un sens qui est l'antithèse de ce pourquoi je suis venu à faire l'élevage, quoi. Du coup, on décide comme ça avec donc là je travaillais encore avec ma tante qui était encore sur la ferme, de ne pas poser ces puces électroniques et de continuer comme on faisait avant, une seule boucle à l'oreille des chèvres. Mais tant bien que mal, on remplit à peu près les documents qu'il faut renvoyer aux différentes administrations. On continue de faire le minimum nécessaire, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'entends parler du collectif Faux Pas Pucer, qui est du coup en train d'organiser une campagne de solidarité envers d'autres éleveurs qui ont justement refusé des choses qui nient la raison de pourquoi on fait de l'élevage ou de l'agriculture. Et du coup, je profite d'un concert de soutien pour aller les rencontrer.
Je m'appelle Mathieu Amiec, je fais partie du collectif Faux Pas Pucer depuis sa création en 2010-2011. À l'époque, j'étais dans l'enseignement. J'avais fait un parcours d'études en sociologie centré sur la question des évolutions du travail, l'introduction de nouvelles formes de management, c'est-à-dire une radicalisation de la parcellisation du travail, de formes de surveillance des salariés également. Donc j'étais très sensible à ces questions d'évolution du travail, notamment sous l'impact des technologies. Et quand des voisins éleveurs sont venus me chercher en 2010 pour participer à un groupe de travail sur la possibilité pour eux d'échapper à l'obligation de pucer leurs animaux avec des micro-ordinateurs, ça m'a intéressé, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé donc à faire partie d'un petit groupe composé d'éleveurs, d'éleveuses, et on a examiné ensemble les possibilités qu'ils avaient, légalement ou pas, d'échapper à cette obligation. Ça nous a très vite mené à une réflexion sur la notion de désobéissance, parce que des possibilités légales, il y en avait très peu. Donc au final, on a créé un collectif avec une activité politique et syndicale en quelque sorte, qui menait dans notre région, mais on s'est aussi déplacé au loin, dans des grandes villes, pour mener des discussions publiques sur l'industrialisation de l'agriculture et cette histoire de puce, qu'est-ce qu'elle signifiait. Et puis, dans le courant de 2014, on a organisé aussi une transhumance à travers notre département du Tarn, à l'occasion de la lutte contre le barrage de Sivens. Et c'est là d'ailleurs qu'on a rencontré Pierre.
Donc moi, c'est à ce moment-là que je rencontre les membres de Faux Pas Pucer. Les puces électroniques sont un lourd symbole de ce que peut être la numérisation de nos bêtes. C'est au milieu de toute une production de documents et de comptes rendus, de rapports d'activité presque, de comment on élève nos bêtes, qui nous semble destiné à ce que l'administration puisse le faire à notre place, quoi. Qu'en fait, on soit juste des simples exécutants de grandes orientations agricoles qui soient décidées par on ne sait trop qui, enfin, soit des conseillers, soit des décideurs, quoi. Et l'obligation d'identification des chèvres qui passe en 2010, c'est, la norme dit, une boucle plastique avec le numéro de la bête à l'oreille et une boucle électronique. Le numéro de la bête sur du plastique et le numéro dans une puce RFID, qui est une puce informatique qui stocke des données. Ça vient après quelques années où on est passé de pas de boucle à une simple boucle d'identification, puis deux boucles, ce qui préparait le terrain à cette informatisation de l'identification. Et sous couvert de la fameuse traçabilité que les administrations agricoles ont sorti comme grande solution aux crises industrielles, vaches folles et autres des années 90-2000. La réponse étant, on peut savoir d'où vient le produit, donc c'est une solution aux crises sanitaires.
Par exemple, on a vu il y a quelques années, à un moment où on menait une action contre l'administration, venait d'éclater le scandale de la viande de cheval Spanghero, qui avait été trouvée dans des hamburgers, dans des steaks où il ne devait pas y avoir de viande de cheval. Donc c'était bien l'illustration que la traçabilité ne permet pas en fait d'empêcher des formes de fraude industrielle à grande échelle, alors que elle va par contre pouvoir mettre à genoux des petits éleveurs, des petits agriculteurs, parce que ces exigences impliquent d'investir plus d'argent dans des plus grosses structures.
Après, derrière ces puces RFID, c'est aussi quelque chose qui vient avec plein d'autres usages, quoi. Enfin, on connaît les puces RFID des cartes de navigation ou le passeport biométrique qui est aussi une puce RFID. Enfin, c'est le moyen de stocker des informations, de les lire à distance. Enfin, en gros, de réaliser des fichiers décentralisés qui concentrent des informations de plus en plus importantes, quoi. Un nombre d'informations de plus en plus important. Aujourd'hui, dans les puces RFID des chèvres, il y a que le numéro de l'animal, mais bien sûr que derrière, après, ça serait le carnet de santé, le livret, sa vie sanitaire et vétérinaire, chez qui il est passé. Donc finalement, la traçabilité qu'on tente de nous imposer en élevage, c'est en fait traçabiliser tout ce qui se passe sur une ferme. Traçabiliser comment on s'occupe des bêtes, et donc traçabiliser le travail des éleveurs, quoi. Et c'est un contrôle des éleveurs, et non pas de la vie de la bête, quoi. 2015, quelques temps après avoir rencontré le collectif Faut pas pucer, on nous annonce un contrôle agricole précisément sur l'identification des bêtes. Dans le cadre des subventions européennes, des primes PAC, régulièrement, des contrôleurs des directions départementales, soit DDT, soit anciennement DSV, enfin les organismes, viennent contrôler sur les fermes qu'on remplisse un certain nombre de conditions pour avoir droit de toucher aux aides. Et là, boum, ils viennent vérifier précisément l'identification des chèvres. Donc se pose plus précisément pour nous la question de ne pas avoir mis de boucle électronique. Jusque-là, on l'a refusé, mais personne ne venait voir si on les avait mis ou pas. Et avec Adeline, on a un troupeau de 50 chèvres. On leur met une boucle plastique avec leur numéro depuis une quinzaine d'années. Ça nous convient et ça nous suffit pour les distinguer à un moment où peut-être on les connaît pas encore chacune par leur prénom. Mais très vite, chaque chèvre a un prénom. On n'a pas besoin d'électronique et d'outils informatiques pour distinguer un troupeau de 50 bêtes, quoi. C'est même contraire à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à distinguer, à individualiser, à reconnaître nos bêtes d'un coup d'œil, quoi. Donc du coup, quand se pose la question du contrôleur qui va venir vérifier s'il y a des puces, on décide d'assumer frontalement face à l'administration et donc de se mettre en infraction, d'assumer le simple bouclage des bêtes, qui sera donc une anomalie, comme ils disent lors des contrôles. Là, bon, le contrôleur décide de constater l'absence de boucle électronique aux oreilles des bêtes. Donc, on essaye d'échanger un petit peu avec lui sur la non-consistance de ses obligations, la numérisation, l'application aux petits élevages comme aux gros, ces choses-là. Le contrôleur, lui, reste dans une position très « je ne fais que mon travail ». Il constate et ne peut nous renseigner sur les suites qu'il pourrait y avoir, puisque lui ne fait que constater les cases de sa grille, quoi, et transmettre à d'autres administrations. Donc du coup, suite à ce contrôle, on a une interdiction de mouvement de la part de la DSV. Donc la DSV, c'est l'organisme départemental qui a en charge de la santé animale, quoi, protection alimentaire et santé animale. Eux, étant donné la non-conformité, ils nous interdisent les mouvements animaux, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire la vente et l'achat, en gros, des animaux. La seule autorisation, il faut demander une dérogation pour chaque bête pour avoir le droit de la faire abattre dans un abattoir, quoi. Nous, on a un troupeau laitier, donc on vend pas de la viande, mais régulièrement, on vend des bêtes un peu vieilles ou qui font plus de lait, ou comme ça, à des particuliers, à des gens, au cas par cas. Donc ça veut dire que l'administration gèle le troupeau et le condamne à grossir ad vitam, puisque des naissances, il y en a, et bloque, en fait, étouffe la ferme, quoi, par son activité, puisque l'élevage d'un troupeau, c'est de qu'il y ait des bêtes qui naissent, qui grandissent, qui renouvellent le troupeau, et d'autres qui s'en aillent, quoi. Et l'année dernière, en 2017, ils décident de revenir. Ils poursuivent le fil de leur contrôle, quoi. À ce moment-là, c'est directement la DSV qui se déplace, c'est plus le sous-traitant de la première fois, quoi. Sur ce nouveau contrôle, on appelle un petit peu des gens autour de nous. Et puis, on a une certaine liste de contacts qui, suite à des soirées, des discussions, des projections de documents qu'on avait fait avec le collectif, se sont inscrits sur des listes pour dire « Moi, ça m'interpelle, cette question du puçage. Je trouve tout à fait légitime ce refus de la numérisation des animaux, de l'électronisation et d'aller dans le sens de l'industrialisation des troupeaux. Du coup, je m'inscris sur une liste pour être appelé à venir soutenir quand il y a besoin, et souvent urgemment, puisqu'on est prévenu 2 jours avant le contrôle. Et on se retrouve à une centaine sur la ferme pour accueillir là les 2 contrôleurs. Donc ils font le tour de tout leur formulaire avec un grand nombre de cases à remplir et constatent bien, donc ils cochent toutes les cases qui vont bien, que tout le troupeau va parfaitement bien, que les locaux, enfin, etc. Mais que les bêtes, elles sont identifiées, mais anormalement. On discute un petit peu avec ces personnes-là qui font appliquer des lois qu'ils ne trouvent pas toujours sensées. Là, on a des personnes qui sont largement convaincues de l'importance de leur travail pour garantir la sécurité sanitaire des aliments sur le marché français et qui ne voient absolument aucune différence entre un élevage de 50 chèvres, dont on connaît les bêtes par leur nom, et une crise sanitaire sortie d'on ne sait quelle usine, qui est le fait même d'une production de masse et déshumanisée, mécanisée, tout ce qu'on peut mettre derrière. Quoi. Enfin, bon, c'est un dialogue de sourds, quoi. Donc la DDCSPP, l'organisme qui est venu contrôler la police des animaux, nous a à nouveau envoyé une interdiction de mouvement animaux, donc comme je l'expliquais, qui est en fait qui correspond à l'interdiction de vendre ou d'acheter des bêtes, assortie d'une mise en demeure de mettre en conformité l'identification des bêtes dans le courant du mois. Donc là, on était en janvier. Et tout récemment, là, suite à l'expiration du délai qu'ils nous avaient accordé, il semble que l'administration ait décidé de franchir un seuil un petit peu, puisqu'elle nous a envoyé un courrier nous disant que, n'ayant pas reçu de documents de preuve de mise en conformité de notre identification, elle envisageait de dresser un procès-verbal au procureur de la République, donc de nous envoyer au tribunal correctionnel pour y ajouter des sanctions pénales qui pourraient être d'une autre ampleur que les montants d'aide PAC qu'on se fait retirer jusque-là, quoi.
L'existence de ce réseau de solidarité pour venir, par exemple, lors des contrôles ou lors d'actions dans les administrations, d'actions de protestation, ce réseau, il est nécessaire à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue tout simplement financier, parce que les gens qui se lancent dans cette démarche de désobéissance rencontrent un énorme problème par rapport à leurs revenus, à leur subsistance économique, puisque la plupart des éleveurs sont dépendants de ces primes, de ces subventions. L'élevage est une activité qui est sous perfusion du fait du faible prix relatif de la nourriture, et que les choses que les éleveurs vendent ne permettent pas de constituer un revenu. Donc on a vu le cas d'éleveurs du groupe Faux Pas Pucer qui ont eu 20 000 euros de sanctions pour leur refus de la puce électronique et d'un certain nombre de procédures obligatoires. 20 000 euros, c'était 15 000 euros de retrait de prime sur environ 30 000 qu'ils touchaient à l'époque, et 5 000 euros d'amende pour avoir menti, soi-disant, sur leur déclaration de bêtes. C'est-à-dire qu'on les accusait d'avoir déclaré d'avoir 250 bêtes, ce qui était effectivement le cas. Et comme il y avait 200 bêtes qui n'avaient pas la puce électronique et qui devaient absolument l'avoir à ce moment-là, l'administration a considéré que ces bêtes n'existaient pas. C'est-à-dire que les contrôleurs constatent l'existence des bêtes. Les bêtes ne sont pas étiquetées comme cela est demandé par leur réglementation. Et du coup, ils marquent sur leur papier que ces bêtes n'existent pas. Et on peut mettre une amende aux éleveurs sous prétexte que c'est eux qui auraient menti sur l'existence de ces bêtes. C'est kafkaïen. C'est le monde à l'envers. Donc ça, c'est quelque chose qui a énormément touché, à la fois dans la région et au-delà, l'histoire de ces bêtes qui n'existaient pas. On voit l'énormité de la fiction que parvient à créer la bureaucratie par rapport au travail réel des gens. Donc l'élevage est une activité sous perfusion, et cette perfusion permet un chantage, parce que les gens se sentent du coup contraints de faire des choses qui ne leur plaisent pas, de respecter des procédures dont ils n'ont pas besoin ou qui contreviennent à leur éthique ou à leurs convictions politiques. Mais c'est extrêmement difficile d'y contrevenir parce que les sanctions financières, la perte de revenus, peut être considérable. Par ailleurs, ce réseau de solidarité semble une nécessité politique. À Faux Pas Pucer, donc, qui est un collectif où il n'y a pas que des éleveurs, on a toujours pensé que cette affaire du puçage électronique et des normes agricoles, du déluge de normes, de nouvelles obligations bureaucratiques, n'était pas une affaire strictement agricole. On a toujours fait des rapprochements avec ce qui se passait dans d'autres métiers. On a rencontré aussi bien des infirmières psychiatriques qui ne supportent pas d'avoir à faire des rapports par informatique sur leur activité, qui les empêchent de disposer du temps qu'elles veulent pour leur activité auprès des malades. On a trouvé des assistantes sociales qui refusaient de continuer à donner des statistiques à leur hiérarchie et à donner des renseignements qu'elles estimaient confidentiels sur les gens qu'elles recevaient à leur hiérarchie. On a aussi participé à la naissance d'un mouvement de désobéissance à l'informatisation de l'école, la naissance d'un collectif de profs qui refuse l'injonction à utiliser les ordinateurs pour leur pédagogie. Ce qui nous semble intéressant, c'est les espaces où les gens peuvent échanger sur le contenu de leur travail, sur les rapports hiérarchiques, saisir les raisons de leur malaise et pouvoir envisager de se soustraire à des procédures qui leur semblent contraires à leurs valeurs, à leurs convictions. On pense qu'aujourd'hui, il y a la place pour un mouvement de protestation et de résistance contre l'informatisation de la société, toutes les contraintes dont elle est porteuse, les formes également de fichage, de séparation des gens d'avec leur activité. Ce refus du puçage électronique ne pourra être porté encore plus loin que si il y a des luttes un peu du même type qui éclatent dans d'autres domaines, si les gens arrivent à formuler ça et à rentrer peut-être eux aussi en désobéissance là où ils travaillent chaque jour.
Pas un mouton, je ne serai pas un mouton. Suivre sans réfléchir là où m'entraîne la troupe. Pas un mouton, non je ne serai pas un mouton. Attendre avant d'agir qu'il y ait un effet de groupe. Pour que je me mette en mouvement, en suivant le flot bruyamment. Tu peux attendre longtemps.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et un nouvel épisode du journal breton d'Inès Leroux, réalisé par Clémence Grosse avec la collaboration d'Antoine Costa, qui est l'auteur également d'un petit film qui s'appelle Mouton 2.0, dont vous trouverez les références sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Merci à Laetitia Montulet et à son élevage de poulets Palace Poulette. Merci également à Régine Saladin, à Pierre Mestre et à Mathieu Amiec. Sandrine Chaperon, bien sûr, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre très précieuse également stagiaire.
Sans joie, sans peine, sans amour et sans haine, je vois pas à quoi ça sert d'être...